Nous allons reprendre notre étude dans 1 Timothée et le chapitre 6. Et aujourd'hui, je voudrais commencer à partir du verset 11 et lire jusqu'au verset 16. Et le sujet de cette étude s'agit du bon combat de la foi. On vient de parler ensemble de certaines situations qu'on a vécu déjà depuis que le Seigneur nous a enseigné, appris l'Évangile. Il faut dire que c'est un combat. Ce n'est pas que nous luttons avec les ennemis dans le sens physique. Nous ne sommes pas appelés à prendre des armes et aller essayer de convaincre le monde par les moyens de la chair. Mais il s'agit ici d'un combat spirituel. Alors, c'est pourquoi Paul dit ici dans 1 Timothée 6, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Fuis quelles choses? Il dit dans le verset 10, l'amour de l'argent. C'est-à-dire, on ne peut pas servir l'homme, on ne peut pas servir pour notre bien physique ou matériel et en même temps dire que nous sommes serviteurs de Dieu. C'est comme quelqu'un qui est dans l'armée, il dépend de l'armée pour son soutien. On s'occupe de lui. Il ne fait pas ça pour s'enrichir, mais il est sous des ordres de son d'un commandement. Et donc, il sert sous des ordres. Alors, c'est comme ça que nous sommes, qui sommes des enfants de Dieu. Nous avons un seul chef qui est Christ. C'est lui la tête du corps. Alors, nous ne devons pas poursuivre ce que le monde poursuit en ce qui concerne l'amour de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui est une racine de tous les maux, mais l'amour de l'argent. Le fait de faire de l'argent une poursuite, parce qu'il dit, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi. Nous connaissons peut-être des pasteurs et des prédicateurs qui n'osent jamais prêcher ce que dit la Bible, parce qu'ils savent que s'ils commencent à prêcher ce qui est de la Bible, de la parole de Dieu, l'évangile pur, qu'ils seront censurés par leur assemblée, ils seront mis dehors. Alors ils commencent à penser maintenant à leur soutien, comment est-ce qu'on vit, etc. Et pour cela, ils compromettent maintenant le message de l'évangile. Il y en a beaucoup. C'est comme ça. Ce n'est pas parce qu'ils ne voient pas l'évangile tel que c'est révélé dans les Écritures, mais ils n'osent pas prêcher ça parce que ils craignent offenser ceux qui les soutiennent. Alors c'est ça que Paul dit à Timothée, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, fuis cette manière de penser et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Et voilà maintenant verset 12, le sujet de ce message. Combat, le bon combat de la foi. On a déjà vu à travers nos études dans cette première épître de Paul à Timothée que la foi est synonyme de Christ et de sa doctrine. C'est singulier. Une seule doctrine de Christ. Et pour cette doctrine, nous devons combattre. Parce qu'il y a beaucoup d'ennemis spirituels qui n'aiment pas l'enseignement de l'Évangile. Ça va contraire à leur pensée naturelle. Les gens veulent un Dieu, mais pas un Dieu souverain. Le monde préfère un Dieu qui est entre leurs mains en tant qu'homme au lieu d'un Dieu qui a toute chair entre ses mains pour faire des hommes ce qu'il veut. Voilà le combat. Les gens préfèrent un message qui dit que Dieu aime tout le monde. Ça, c'est préférable. Les gens vont accepter un tel Dieu. Mais dire que Dieu fait choix dans sa grâce et dans son amour entre ceux qu'il va sauver et qu'il sauve et ceux qu'il condamne, il n'accepte pas un tel Dieu. Voilà le combat de la foi. Mais la foi, cela veut dire la doctrine de Christ, est précise. Ça précise que Dieu est souverain. C'est lui qui a choisi d'entre toute l'humanité déchue, il a choisi son peuple. C'est à lui le droit. Et il a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, dans le monde pour sauver ce peuple. Et c'est pour eux qu'il est mort. Il suffit de lire Jean 17. Ce n'est pas que les mots ne sont pas clairs en Jean 17, c'est clair. Mais c'est parce que les hommes ne veulent pas accepter ce que dit la Bible. Ils sont des rebelles. C'est pourquoi c'est le combat de la foi. Mais on doit rester ferme. C'est dans ce sens que Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Il ne faut pas céder même pour une seconde face aux attaques en ce qui concerne l'évangile. Restez ferme dans la foi. La même foi, et c'est cette foi qui est révélée par l'Esprit de Dieu. Les gens, en Jean 17, Christ a dit, je ne prie pas pour le monde. Pourtant, ceux qui sont contre l'évangile, qui opposent l'évangile, ils vont dire, non, mais Dieu veut que tous les hommes, sans exception, tous les hommes soient sauvés. Et Christ a versé son sang afin que tous les hommes, et femmes et enfants, sans exception, soient sauvés. C'est comme ça qu'ils prêchent. Et ils disent, nous devons prier pour tous les hommes, sans exception. Pourtant, Christ a dit, même Christ ne prie pas pour tous les hommes. Il a dit, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Et telle est la volonté de Dieu. Alors, il faut savoir que lorsque le Seigneur révèle dans un pécheur cette doctrine de Christ, la personne de Christ et son œuvre, lui montrant son état de perdition et maintenant lui donnant des yeux pour regarder à Christ seul, il y aura une lutte. Désormais, à partir de ce moment, si c'est véritablement une œuvre de grâce durant toute la vie d'un tel pécheur, il sera contre le monde et le monde contre lui. Il sera isolé. Mais il faut s'attendre à cela. Notre confort n'est pas avec les masses. Je sais qu'il y a beaucoup, ils ne veulent pas assister à un lieu de culte où il n'y a pas beaucoup de monde. Ils vont dire que ce n'est pas assez animé, qu'il n'y a pas assez de monde. Ils ne peuvent pas vivre seuls. Mais je dois dire que quand je lis la Bible et je vois, même lorsque le Seigneur Jésus marchait sur cette terre, je vois sa manière de souvent laisser les foules et aller trouver un seul pécheur, et se révéler à ce pécheur, et puis aller se cacher, se retirant des foules. C'est contraire à ce que les gens aujourd'hui appellent l'évangélisation. Ils aiment les croisades, ils aiment démontrer une certaine popularité. Et le Jésus qui prêche, il prêche un Jésus que tout le monde peut accepter. Ils ne peuvent jamais accepter de prêcher la doctrine de Christ telle que le Seigneur nous a révélée. Alors, c'est un combat. C'est pourquoi Paul dit ça à Timothée. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement. Notez bien, le commandement, ce n'est pas les commandements. Souvent les gens, quand ils voient le mot commandement, ils pensent aux 10 commandements. Non, de garder le commandement. Quel commandement? C'est décrit dans le verset 12, de combattre le bon combat de la foi. Le commandement de rester fidèle au Christ de la Bible, de rester fidèle à sa doctrine, à sa personne et son œuvre. Voilà ce qui est précieux à Dieu le Père, donc de garder ce commandement. Un soldat est sous les ordres de son commandant. Il n'est pas en train de prendre ses propres décisions. Et c'est le même cas avec nous, que ce soit un enfant de Dieu, c'est Christ qui est notre chef, que ce soit en tant que serviteur de Dieu dans la prédication. Nous recevons notre doctrine de Christ et de son esprit de la grâce à travers la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous prêchons ce que nous prêchons. Alors il dit de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul, voilà le mot, souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul, voilà ce que le monde n'aime pas, ce mot seul, vous voyez ça dans le verset 15, seul souverain. Et le verset 16, qui seul possède l'immortalité. À travers les années, dans ma prédication, il y a des gens qui me font des reproches et ils disent, mais c'est le mot seul que nous acceptons pas. Faut pas dire que c'est le seul moyen. Faut pas dire que c'est le seul évangile. Faut pas dire que c'est par sa mort seul. Alors, quand les gens raisonnent de cette manière, ils démontrent par là qu'ils ne sont pas encore enseignés par l'Esprit de la grâce de Dieu. Ils sont encore dans les ténèbres. Parce que la Bible utilise ce mot seul ou unique. Ce qui est unique, c'est seul, c'est unique. Il n'y a pas de comparaison. Un seul Dieu, un seul sauveur, un seul sacrifice, une seule rançon, un seul salut, une seule foi. Et c'est comme ça que le Seigneur fait la distinction entre ceux qui sont à lui et ceux qui ne lui appartiennent pas. Alors, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Alors, le bon combat de la foi, c'est vraiment un passage que je prie le Seigneur nous donnera sa lumière pour mieux comprendre ce qui est écrit. Nous allons mettre une pause pour le moment et je vais demander la bénédiction du Seigneur avant de continuer. Seigneur, nous te remercions pour cette occasion de nous rassembler de nouveau autour de ta parole. Merci pour cette parole. Merci que nous avons le privilège de la lire, de l'étudier ensemble. Et Seigneur, ma prière, c'est que ton esprit lui-même nous éclaircisse, nous enseigne et nous donne des yeux clairs pour voir Christ et Christ seul, l'unique Fils de Dieu, l'unique Sauveur que tu as envoyé pour donner sa vie afin de sauver un peuple unique, un peuple élu que toi-même dans ta grâce depuis l'éternité as choisi. Seigneur, nous ne sommes pas en train de vouloir convaincre le monde parce que le monde ne serait jamais convaincu. Seulement seul en qui tu mets ton esprit seront convaincus de leur péché et seront attirés à ton Fils. Ça, c'est l'œuvre de la grâce que tu donnes à travers Christ. Alors, je te prie de bénir ces moments d'instruction, surtout à nos cœurs d'abord, et puis donne-nous cette fortitude d'aller annoncer cet évangile là où tu nous as placés dans le monde. Et nous te rendons gloire et grâce dans le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, en ce qui concerne le combat de la foi, la première des choses que je remarque, c'est le mandat. Parce que tu vois dans le verset 11, quand il dit « fuis ces choses », ce n'est pas qu'il est en train de lui donner ça comme une option. Non, c'est un mandat. C'est écrit dans l'impératif. Et c'est intéressant, dans l'original, c'est au présent et c'est actif. Cela veut dire qu'il n'y a jamais un temps où on peut laisser tomber notre garde et dire, bon, je ne suis plus en danger. Quand c'est écrit « fuis ces choses », c'est un mandat, c'est un commandement. Timothée ici est ordonné, mais c'est dans le sens au présent. Il doit continuer à jamais à fuir les choses épinglées qu'on a vu déjà dans 1 Timothée chapitre 6 du verset 3 au verset 10. Vous voyez, les fausses doctrines, ceux qui, à cause d'être enflés d'orgueil, cherchent à disputer. Voilà le combat. Quand quelqu'un se lève pour mettre la lumière sur le péché et la lumière sur Christ tel qu'il est révélé dans les Écritures, les gens vont s'opposer. C'est un véritable combat Alors, Timothée doit fuir, ouais, c'est mis dans le sens négatif, fuir tout ce qui peut épingler les gens. Jusqu'au point de verset 9, ceux qui veulent s'enrichir. Je ne peux pas te dire combien de prédicateurs prêchent comme un moyen de vivre. Ils ne peuvent pas vivre d'autre manière, donc ils vivent sur le dos des gens à qui ils prêchent. Et ils sont toujours en train de soustraire leur argent. Et je dois dire, eux-mêmes sont paresseux. Ils ne peuvent pas aller travailler ailleurs, c'est pourquoi ils prêchent. C'est dommage, mais c'est le cas. Et ils veulent s'enrichir de cette manière. Nous ne sommes pas dans le ministère pour s'enrichir ou vivre aux dépens des autres. Non. La seule raison de prêcher l'évangile, c'est à cause des hommes et la gloire de Dieu, et à travers la révélation de Christ, c'est tout. Alors, quand il dit de fuir ces choses, il faut savoir que nous sommes d'une nature, nous-mêmes, comme les autres. Si Dieu enlevait sa main de nous, c'est sûr qu'on allait suivre la même voie que les autres. Donc, ce n'est pas que nous sommes mieux que le monde. Nous sommes tentés de la même manière. Mais il dit à Timothée, étant un enfant de Dieu, et aussi un homme de Dieu, la manière que c'est adressé pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Alors, fuis les vaines discussions, fuis tout ce qui peut plaire aux hommes, fuis continuellement l'amour d'argent, parce que ces choses sont en contraste avec la prédication de l'Évangile et ce qui doit être prêché, comme il a dit déjà dans le verset 2. De 1 Timothée 6, et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien, enseignent ces choses et recommandent-les. Il faut savoir que où il y a des brebis, que le Seigneur réunit autour de nous. Ce sont des frères. Alors, on doit servir le Seigneur pour leur bien-être. Et la meilleure façon de servir le Seigneur pour le bien-être de l'assemblée ou bien des frères, c'est d'être serviteur de tous. Nous ne sommes pas de ceux qui se mettent au-dessus des gens et qui exigent un certain respect d'eux parce que nous sommes le pasteur, comme on l'entend dire. Ah, je suis le pasteur, donc il faut pas me contredire, non. Nous servons le Seigneur et c'est pour le bien-être de ceux qui nous écoutent que nous servons et non pas pour l'argent. Alors quand Paul dit à Timothée ici dans le verset 11, pour toi, homme de Dieu, le monde voit ça comme un titre honorifique. C'est comme on dit révérend ou le pasteur. Mais à travers la Bible, nous voyons les titres qui sont donnés à ceux que le Seigneur suscite, et ce sont des titres simples, serviteurs de Dieu. Ouais, notez bien, homme n'est pas en majuscule, homme de Dieu. Ce n'est pas seulement un titre, mais c'est une bénédiction d'être appelé homme de Dieu, un homme en qui Dieu s'est révélé par son esprit. Un homme qui appartient à Dieu par sa grâce, un homme qui est sauvé par le seul moyen de Jésus-Christ et son sang versé. C'est dans ce sens-là un homme de Dieu. Et en fait, en réalité, c'est un titre qui appartient à tous ceux qui appartiennent à Christ. Par exemple, si tu vois dans 2 Timothée, chapitre 3, et le verset 16 et 17, notez, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et verset 17, afin que l'homme de Dieu, on peut transposer là le mot enfant de Dieu, afin que l'enfant de Dieu, afin que celui ou celle en qui Christ est révélé par l'Esprit de Dieu, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors nous vivons, un homme de Dieu, un enfant de Dieu vit aux dépens de Christ et de son œuvre accomplie pour lui. Et il se nourrit de la parole de Dieu. Cette parole qui est donnée pour notre instruction en tout ce qui concerne Dieu, qui concerne Christ, qui concerne le salut. Et c'est cette parole alors qui est notre règle de vie et non pas la parole des hommes. Alors tout cela est dit en contraste avec les faux docteurs ou ceux qui prétendent être enfants de Dieu et qui ne le sont pas. Les faux docteurs n'étaient pas et ne sont pas hommes de Dieu parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu en eux. Ça n'a jamais été révélé. Et là, quand je dis la parole de Dieu, je veux dire Christ qui est la parole de Dieu. C'est lui qui est la révélation de Dieu. Peut-être qu'ils ont une certaine connaissance de la parole selon ce que les hommes leur ont enseigné, mais ils ne connaissent pas celui qui est la parole de Dieu, c'est-à-dire Christ. Alors, vous voyez le mandat de ce combat. C'est un véritable combat. Et il y a certaines choses à fuir selon ce mandat. Il y a aussi certaines choses à rechercher. C'est encore là un impératif au présent, actif. Cela veut dire un ordre continuel. Le premier fuit et en quelque sorte négatif, mais le second, ici, dans le verset 11, recherché, ça c'est positif. Alors tous ces deux impératifs sont importants à la saine doctrine et à une vie d'un enfant de Dieu. Notez bien, la justice. Recherche la justice, ce qui est juste. C'est ça le mot, justice. Bon, nous savons que en nous-mêmes, il n'y a pas de justice. Donc, Paul n'est pas en train de dire à Timothée ici de rechercher à établir une justice propre de lui-même. Non. Quand il s'agit de la justice, recherche la justice, il s'agit de cette justice imputée à la croix. La justice par laquelle les hommes pécheurs sont déclarés justes devant Dieu. C'est cette seule justice qui doit être l'objet de notre recherche. Parce que prêcher une autre justice, c'est prêcher le mensonge. Il n'y a pas d'autre justice. Et là encore, voilà le mot « seul ». Il y a des prédicateurs qui prêchent comme si la justice de Dieu dépend en partie de ce que Christ a accompli et puis en partie de ce que l'homme fait. Mais ça, c'est le mensonge. Il n'y a qu'une seule justice. Et c'est cette justice que Christ lui-même, en venant dans le monde, est venu établir et satisfaire à un Dieu saint pour et à l'égard de ce que le Père lui a donné. C'est une action légale que Christ est venu accomplir. Ce n'est pas seulement de vivre pour nous donner un exemple comment nous devons vivre. Il y a beaucoup de prédicateurs qui prêchent de cette manière. Quand ils prêchent Christ, Christ est un exemple à suivre. Non, Christ est le substitut. Christ est le sauveur. Christ est le sacrifice. Christ est la satisfaction pour son peuple devant un Dieu saint. Et il a tellement accompli cette justice, non seulement par sa vie parfaite, mais par sa mort expiatoire. Satisfait, il a satisfait la justice de Dieu jusqu'à tel point que Dieu maintenant a pu déclarer juste pour toujours, à jamais, ceux pour qui Christ est mort. Alors ça c'est notre position en Christ, si Christ est mort pour nous. Et ça c'est la doctrine de Christ, ça c'est le message. Si nous n'entendons pas quelqu'un en train de prêcher ce message, il ne prêche pas Christ. Il peut bien mentionner le nom de Christ, mais c'est un menteur qui prêche autre message que cette justice satisfaite par Christ à l'égard de son peuple. Alors, c'est ça que Paul dit à Timothée de rechercher, de faire l'objet de son ministère, cette justice-là. Et puis, en deuxième lieu, il parle de la piété. Et nous avons vu ça la dernière fois. Être pieux. Le monde a son interprétation de cela, mais le mot « piété » ici s'agit d'une révérence pour Dieu, une certaine crainte pour Dieu et Dieu seul. Ouais. Et son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Mieux vaut craindre Dieu que les hommes. Alors, encore, recherche la justice, recherche la piété. Je dois dire que quand quelqu'un qui enseigne de Dieu parle, il ouvre sa bouche pour témoigner de la part de Dieu, c'est d'une manière différente qu'on entend dans la prédication générale. Celui qui enseigne de Dieu, il y a vraiment une crainte pour Dieu. Les gens, en l'écoutant, ils savent qu'il est en train de prêcher un Dieu honorable, un Dieu majestueux, un Dieu saint, qui sent la médiation de Christ, sans que Christ soit le médiateur. Il n'y a pas d'espoir. Et puis, il dit dans le verset 12 aussi, verset 11 plutôt, la foi, recherche la foi. La foi, c'est comme c'est écrit, la foi qui a été révélée, donnée une fois pour toutes aux saints. Il s'agit du contenu de l'évangile, de la doctrine de Christ qui est révélée dans les Écritures. C'est basé sur ce que Dieu a révélé concernant son Fils. Ça, c'est la véritable foi. Ce n'est pas les simples confessions des hommes qu'on entend souvent que « oui, j'ai la foi ». Cette foi dont Paul dit à Timothée de rechercher, c'est la foi qui est révélée en Christ à travers sa parole. Et puis, il parle là de la charité. Et c'est le mot « amour ». Ouais, c'est de cette manière que nous devons vivre un amour pour Dieu qui nous a aimés d'abord, c'est pourquoi nous l'aimons, mais aussi pour le monde autour de nous. Nous, en voyant les hommes dans leur état de perdition, ça nous touche parce qu'on sait qu'on était aussi dans cet état, jusque ce qu'il a plu à Dieu de révéler Christ en nous. Donc, on peut comprendre pourquoi les gens sont comme ils sont. Et nous ne devons pas réagir comme le monde, mais de vivre, de rechercher la charité. Rechercher dans chaque situation une manière d'agir selon la grâce qui nous a été révélée. C'est pourquoi nous ne réagissons pas comme le monde quand les gens sont contre nous, mais nous soumettons toutes choses à Dieu. Ça, c'est la charité. Et puis, la patience. La patience ici s'agit de la persévérance, l'endurance, ouais, de ne pas fuir à cause de l'opposition, de rester ferme en ce que Dieu nous a révélé à travers le Seigneur Jésus-Christ. Et puis, il dit aussi la douceur. Non seulement Timothée, ou bien ceux qui sont hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, ou bien enfants de Dieu, non seulement nous devons endurer ou persévérer dans cette foi, mais de faire cela avec un esprit d'amour. Le mot douceur signifie de rester calme face à l'opposition. Nous n'avons aucune raison d'être agités par ce que le monde pense. Ouais, ils étaient contre notre Seigneur, donc nous pouvons savoir qu'ils seront aussi contre nous. Alors voilà le mandat qui est donné en ce qui concerne ce combat de la foi. C'est un véritable combat à cause de l'opposition des hommes face à l'Évangile. Mais deuxièmement, je voudrais constater cette métaphore que nous avons ici dans le verset 12. Combat, le bon combat de la foi. Qu'est-ce qu'une métaphore? Une métaphore, c'est une figure de style qui consiste par analogie à donner à un mot un sens qu'on attribue généralement à un autre. Donc quand c'est écrit là, combat, cela ne veut pas dire que nous devons lutter selon la chair. Ça, ce n'est pas le combat. Mais notez bien, le combat, combat, le bon combat de la foi. Là encore, c'est un impératif présent, actif. Cela veut dire On ne peut jamais imaginer dans cette vie, dans ce corps, que le combat va cesser. Nous avons une certaine lutte en nous, à cause de la chair qui est en nous, qui est toujours déchue. Et en dehors, il y a un combat face à ceux qui sont ennemis de la croix. C'est un véritable combat. Et comme un soldat qui est toujours en guerre, il se repose seulement pour se rafraîchir assez pour aller rentrer encore dans le combat. On ne peut jamais quitter ce combat jusqu'à ce que nous quittons ce monde. Alors, le verbe et le nom ici sont connectés. Et c'est pour intensifier la métaphore. Paul lui-même dit qu'il a combattu ce bon combat du moment où Christ était révélé en lui jusqu'à sa mort. En 2 Timothée chapitre 4 et le verset 6 ou 7, il dit « Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. » 2 Timothée, c'était sa dernière épître avant que le gouvernement romain l'a décapité. C'est de cette manière que Paul est mort. Et il savait que sa mort était proche. Mais il dit dans le verset 7, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. » Alors, le même mandat qu'il donne à Timothée, c'est le mandat par lequel lui-même, il a vécu sa vie par la grâce de Dieu. Cela n'était pas selon sa propre force, mais c'était selon la grâce de Dieu qu'il était soutenu à travers son ministère. Et c'est vrai pour tous ceux qui sont serviteurs de Dieu, mais c'est aussi vrai pour tous ceux qui sont enfants de Dieu. C'est un même terme qu'il utilise en se comparant à un athlète dans 1 Timothée chapitre 1. Et le verset 18, il dit « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. » Et notez, c'est toujours en lien avec gardant la foi, le verset 19, « En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. » Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De quitter ce combat pour quelque raison que ce soit et poursuivre d'autres intérêts que la gloire de Christ et Christ seul, c'est de faire naufrage. Et la fin ne peut être la condamnation. Alors, on peut dire que c'est Dieu qui nous garde fidèles à ce mandat, à Christ, et c'est une course. C'est une expression utilisée dans l'athlétisme, par exemple dans Hébreux chapitre 12. C'est un mandat qui nous est donné dans le verset 2. « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. » Voilà le combat. Christ lui-même a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs afin que vous ne vous laissiez point l'âme découragée. Alors, vous voyez, de courir cette course ayant les regards sur Jésus. Voilà la métaphore que nous voyons donner ici. Et encore, il y a deux impératifs. Comme dans le verset précédent, combat, le bon combat, ça c'est un impératif présent, actif. Ça démontre le moyen que nous devons combattre, c'est continuellement. Mais notez bien aussi dans le verset 12, un deuxième mandat ou impératif, où il dit « Saisis la vie éternelle ». On peut se demander dans quel sens, parce que une fois que Christ est révélé en nous, nous avons la vie éternelle. Ça a été ordonné depuis l'éternité que nous soyons sauvés pour l'éternité. Alors, dans quel sens Paul dit à Timothée de saisir la vie éternelle. Là encore, la vie éternelle est synonyme de Christ, comme la foi. Combat le bon combat de Christ, saisit Christ. Ça, c'est le sens là. Et c'est un impératif, ce qu'on appelle dans l'original aoriste. Cela veut dire une fois pour toutes. Et encore, c'est métaphorique d'un athlète vainqueur qui reçoit le trophée ou la couronne. Bon, pour nous, la trophée, la couronne, ce n'est pas selon nos mérites, mais c'est à cause des mérites de Christ. C'est lui qui a vaincu pour nous. Alors, c'est lui qui est notre trophée, si vous voulez. C'est lui qui est la couronne de la gloire pour nous. Ce n'est pas comme on entend enseigner que chacun aura une couronne d'or qu'il va porter. Non, ce sont des symboles, encore des métaphores, des figures de style qui démontrent une couronne. C'est quoi? C'est la gloire. Mais quelle serait notre gloire que nous devons saisir? C'est Christ. Alors, cette foi que Dieu révèle et qui nous garde à travers notre vie, ça finit par le trophée. Ça veut dire, à la fin, il y aura cette couronne qui n'est pas autre que Christ. Nous serons couronnés de sa gloire et nous vivrons à travers l'éternité aux dépens de son œuvre et de ce qu'il a accompli. Toute la gloire lui revient. Et le fait que Paul dit à Timothée, ici dans 1 Timothée 6 et le verset 12, à laquelle tu as été appelé. Vous voyez, ça nous montre la base même de la foi. Ça nous montre la base de la persévérance. On ne peut pas se donner cette gloire. C'est à cause de celui qui nous a appelés. Il faut bien souligner cela. C'est là l'effet de l'élection de Dieu, l'élection de la grâce de Dieu. Ça, c'est l'effet de l'acte souverain de Dieu que depuis l'éternité, il a choisi son peuple. Et c'est pour ce peuple qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ dans le monde et payé leurs dettes. Et c'est à travers le temps maintenant qu'il donne son esprit pour les attirer à Christ, les faire sortir des ténèbres, sortir de leur incrédulité, les faire sortir de leur mauvaise voie et de s'attacher à Christ seul. Dans 1 Corinthiens chapitre 1 et le verset 9, c'est ce que Paul dit aux Corinthiens, « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. » Alors les gens vont peut-être vouloir contredire la doctrine de l'élection, de la grâce de Dieu, ils vont essayer de transformer ça dans d'autres doctrines perverses, mais la parole est claire, c'est Dieu qui choisit. Et c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui appelle selon le bon plaisir de sa volonté. Non pas notre volonté, mais sa volonté. Et c'est pourquoi Paul rappelle cela à Timothée, que ce combat de la foi, le fait de saisir la vie éternelle, est selon cet appel de Dieu, un appel sûr, un appel qui est selon la prédestination. C'est pourquoi on persévère dans cette foi. C'est parce que c'est Dieu qui nous garde et nous fait persévérer. Alors, c'est pourquoi un homme, un enfant de Dieu, peut tenir ferme face à l'ennemi, face à ceux qui s'opposent à cet évangile. Il faut savoir que l'opposition vient souvent de ceux qui nous sont proches. On parle de l'opposition du monde, mais Christ a dit qu'il est venu dans le monde, mais il porte une épée pour faire une division même dans un foyer. Un mari contre la femme contre le mari, les enfants contre le père contre les enfants. Pas dans le sens de lutter encore selon la chair, mais une division spirituelle. Je dois dire que mes enfants sont encore dans les ténèbres. Pourtant, ils ont grandi sous l'écoute de l'évangile. Il y a une séparation dans ma propre famille. Mes enfants me respectent en tant que leur père, mais jusque-là, il n'y a aucune indication que mes enfants sont convertis à Christ. Tout ce que je peux dire, c'est que si Dieu les a choisis et si Christ est mort pour eux, donc c'est certain qu'à travers le temps, il les attirera à Christ. Alors ça, c'est la volonté de Dieu à laquelle je me soumets. Il faut dire qu'à travers les années, j'ai aussi eu des séparations avec certains amis qui m'étaient proches, même dans le ministère. Certains prédicateurs qui, pour un certain temps, il semble qu'on marchait ensemble, et puis maintenant, après, il y a eu une séparation à cause de la doctrine de Christ. Certains me disent, oui, je vois cela dans la parole, mais je ne peux pas prêcher cela aussi clair que toi, parce que ça va affecter ma vie, mon ministère, etc. Donc, ils s'en vont. C'est vraiment une séparation, mais Paul dit à Timothée, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Donc, de la manière que tu as débuté, il dit à Timothée, par la grâce de Dieu, puisque c'est Dieu qui appelle, tu continueras aussi dans cette voie. Une belle confession. Ce n'est pas de tisser un message avec des paroles qui sont flatteuses, non. Mais une belle confession, c'est confesser Christ. Quand les gens viennent nous écouter, le message est Christ, et Christ crucifié, c'est tout. Nous ne sommes pas en train de chercher des moyens à plaire aux hommes. Alors, et ça ne doit pas prendre plusieurs fois aller écouter quelqu'un pour savoir s'il prêche l'évangile. De faire une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins, en quelque sorte, ceux qui viennent nous écouter sont des témoins de ce que nous disons, de ce que nous prêchons. Alors, la seule belle confession, c'est de prêcher Christ et Christ crucifié. Rester fidèle à ce message, prêchant sa personne, sa divinité, mais aussi son humanité, le fait qu'il est devenu un homme. Pourquoi? Parce qu'il est venu représenter des hommes. Son expiation et puis son exaltation. Tout cela, c'est la belle confession de la foi. Dans Romains chapitre 10, je voudrais que vous voyez ça pour un moment, et puis je vais m'arrêter, et si vous avez d'autres points à ajouter, vous pouvez bien ajouter, nous allons revenir là-dessus la prochaine fois. Mais dans Romains chapitre 10, et à partir du verset 9 jusqu'au verset 13, nous voyons ce qui est cette confession de foi dont nous voyons Paul en train d'indiquer à Timothée. Romains chapitre 10 et verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois, et quand je vois le mot si là, dans l'original, c'est le mot lorsque. Lorsque tu confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus, et lorsque tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Cela veut dire, ça manifeste que tu es déjà sauvé. Autrement, tu n'aurais pas pu confesser Christ tel qu'il est révélé ici dans les Écritures. Verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Verset 12, il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Et le mot invoquer Christ, là, c'est le cri que l'Esprit donne aux pécheurs de regarder à Christ et Christ seul, de l'invoquer dans une véritable adoration. Ouais. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La raison pour laquelle cette promesse est vraie, c'est parce que personne ne pourrait invoquer le Seigneur si ce n'est pas le Seigneur lui-même qui lui a donné cette foi de pouvoir l'invoquer. C'est pourquoi il sera sauvé. C'est la marque, c'est le signe que quelqu'un est sauvé, c'est qu'il adore Dieu à travers Christ et Christ seul. Et ça, c'est le véritable sens du verset 10. Ce n'est pas comme les prédicateurs qui disent, ah, il faut répéter après moi cette petite prière et voilà, tu seras sauvé. Non. Notez, car verset 10, c'est un croyant en croyant du cœur. Seul l'esprit peut convaincre le cœur d'un pécheur qu'on parvient à la justice, qu'on parvient à cette justice satisfaite par Christ à la croix. On parvient comment? Par la foi. C'est en croyant du cœur et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. C'est-à-dire, en confessant de la bouche ce que Dieu dit. Le mot confession, là, c'est de dire la même chose que Dieu dit. Je confesse que je suis pécheur, tel que Dieu le dit. Je confesse que c'est la mort de Christ seul qui est mon salut. C'est Christ seul qui est mon salut. C'est ce que Dieu dit. Ça, c'est la confession. Dit la même chose. Alors, revenons encore dans le verset 9 pour terminer. Si tu confesses de la bouche le Seigneur Jésus, notez bien, le Seigneur Jésus. Il n'y a qu'un seul. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, ce n'est pas seulement de croire le fait qu'il est mort, mais le savoir et le pourquoi qu'il est mort. Et pourquoi il est ressuscité. Ouais. Il est ressuscité, selon les Écritures, parce qu'il a fini l'œuvre, il a accompli l'œuvre que le Père lui a donnée, comme c'est écrit dans Romains 4, 25, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour ou à cause de notre justification. Il n'y avait pas de justification à part la mort de Christ. Mais quand il a accompli cette œuvre, Dieu le Père l'a ressuscité, ayant justifié, alors une fois pour tous ceux pour qui il est mort. C'est pourquoi nous ne pouvons pas prêcher qu'il est mort pour tous les individus du monde. C'est le mensonge. Si tous les individus du monde, c'est pour eux que Christ est mort, cela veut dire que tous sont alors justifiés devant Dieu. Et alors, il n'y aurait aucune condamnation. Mais nous savons que tel n'est pas le cas. Il y a beaucoup qui sont toujours sur la voie de la perdition. Ils n'ont aucune rançon. Donc, cette mort de Christ, cette confession de la foi, et voilà, on revient encore sur le mot seul ou unique. C'est une foi unique, révélée dans les Écritures, mais révélée au cœur de ceux que, depuis l'éternité, Dieu a ordonné au salut. C'est ceux-là qui sont les véritables enfants de Dieu. Et c'est cette foi dans laquelle ceux qui sont ainsi instruits par l'Esprit, c'est dans cette foi qu'ils vivent. Et selon cette foi qu'ils vivent sans détourner. Alors je vais m'arrêter là. Est-ce qu'il y a encore des pensées, commentaires que le Seigneur vous a donnés qui pourrait aussi nous éclaircir davantage par la grâce de Dieu?
Je remercie vraiment très bien le Seigneur pour la qualité de la transmission surtout. Cela m'a beaucoup plu parce que moi j'enregistre immédiatement quand on est en train de faire le travail. Et cela m'a même beaucoup aidé sur le message du contentement du samedi passé, alors qu'il m'a aidé avec mon équipe du samedi, c'est avec 4 personnes qui ont pu écouter vraiment aussi cette cassette-là, après la conférence. Donc, que le nom du Seigneur soit béni vraiment pour cette bonne transmission. Alors, ce que j'ai vraiment à vous dire aujourd'hui, c'est important. Parce que des fois, la vie même nous instruit. Dieu nous instruit de sa grâce dans certains faits. Ces faits-là, des fois, peuvent nous éblouir. Ça peut vraiment beaucoup nous péder. Par exemple, dans cette semaine-là, moi, j'ai assisté vraiment à 2 morts, vraiment, tous des jeunes. Vraiment, le matin, ils ont travaillé, le soir, c'est la mort. Et un aussi, qui a perdu vraiment sa grande sœur, qui était son seul soutien. Alors, brusquement, comme ça, il est mort aussi. Par ces faits, Dieu nous instruit vraiment de beaucoup de choses. Ce que j'ai vraiment à vous dire, l'homme meurt toujours vraiment dans les projets. C'est ce que David dit, c'est vrai. Toujours l'homme est là à projeter sans tenir compte vraiment du vouloir de Dieu. Et c'est souvent désastreux. Nous devons vraiment préserver, mettre en priorité la volonté de Dieu. Parce que si je vois beaucoup se confier réellement à ce qu'ils ont reçu par la sueur du front ou au bien matériel. Tous ces biens-là, un jour nous allons partir. Le jour qu'on va partir, que ce soit mosquée qu'on a construit, que ce soit église qu'on a construit, que ce soit temple, chose, villa, n'importe quoi, on va quitter cela. Et la seule chose primordiale de la vie d'un homme, c'est sa relation, sa crainte de Dieu, dans la grâce de Dieu. Alors souvent, quand nous voyons ce passage de David, vraiment m'aide beaucoup. David disait, Éternel, apprends-moi à compter mes jours. Chaque jour de notre vie, nous devons voir notre progression, notre marche, vraiment dans la grâce de Dieu. Et là, nous voyons réellement que sans Dieu, on ne peut rien faire. Alors, c'est par la grâce de Dieu que nous avons la crainte même de Dieu dans notre cœur. Alors, quand on imagine sur la terre, tout ce que nous faisons, c'est éphémère. Et nous devons, en cela, cela doit nous aider vraiment à bannir l'amour du matériel, l'amour de l'argent dans notre cœur. Alors, si nous comprenons bien, nous devons persévérer dans notre relation avec Dieu, dans la recherche de la grâce de Dieu, dans la vie, dans la grâce de Dieu, pour essayer de ne pas être ému par aucune autre pensée matérielle pouvant nous ennuyer. Ce que j'ai vraiment à vous dire, le samedi passé, c'était le baptême de ma fille, Grâce. Ma fille, Grâce, elle a 19 ans. Depuis qu'elle est rentrée à l'école, elle est toujours parmi les premières et elle est actuellement à l'université. Alors, je l'ai dit, je l'ai fait asseoir, elle est venue me voir après le baptême. J'ai dit, bien, tu as reçu le baptême. Mais je vais te dire aujourd'hui, moi j'étais nommé, pourquoi j'étais nommé grâce? Tout vient de la grâce de Dieu. Depuis que je t'ai mis à l'école, tu progresses, tu avances, sache déjà que ça, c'est la grâce de Dieu. Et moi-même, je suis ici, je suis le fruit de la grâce de Dieu. Et celui qui m'a appris la grâce de Dieu, c'est l'évangile premier que j'ai connu. Alors voilà, c'est le fait que moi, la prière, c'est que tu connaisses réellement la grâce de Dieu. Et vraiment, avec sa maman, elles étaient tellement contentes qu'ils ont même voulu décider de vraiment suivre quand elle va aller à Boaké avec ses camarades, va suivre ses études là sur Skype. Parce que déjà, sa maman l'a aidé pour avoir un appareil et pour contacter. Alors, c'est pour ça que je vais vous dire, réellement, moi, j'ai eu une leçon aussi. Pas plus que le début du mois, j'étais plus. J'étais un demi-millionnaire. Mais je te dis que quand j'ai effectué des dépenses, j'ai vu que je n'avais rien. Alors, j'ai su par là que le matériel, l'argent, n'est pas quelque chose sur qui on peut fonder notre foi. Notre confiance, notre ultime relation, c'est avec Dieu. Je vous dis ces choses-là. Et je vous remercie parce que le samedi, je n'ai pas eu l'occasion de parler. Et je profite de l'occasion alors pour vraiment dire tout cela, que le Seigneur vous bénisse et prions pour les uns et les autres. Nous allons avoir des ennemis. La tâche est lourde. Prions que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Bien.
Oui, on remercie le Seigneur pour son enseignement et surtout cette grâce qui nous fait comprendre, non seulement avec la tête, mais du cœur, car par Christ, il n'y a pas d'espoir. Et toute véritable espérance, c'est Dieu qui donne ça aux pécheurs qu'il a choisis par sa grâce et à travers l'œuvre de Christ seul, unique. Bien.
Oui, parce que moi, je voulais ajouter quelque chose.
Oui.
Alors, je voulais ajouter quelque chose parce que, en fait, c'est toujours un privilège d'apprendre les Écritures, de les lire. Et c'est par les Écritures qu'on grandit vraiment véritablement dans la foi. Je constate que l'apôtre Paul, dans cette épître, il fait la suite de ce qu'on a vu le samedi passé. Voilà, quand Paul donne les instructions toujours à Timothée, on dit ici, par exemple, dans 1 Timothée 6, le verset combien? Voilà, le verset 5. Il dit les contestations interminables d'hommes à l'esprit corrompu, privé de la vérité, et qui considèrent la piété comme source de gain. Ouais, et dans le verset 10, il dit ici, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, pour s'y être abandonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Donc, quand on revient maintenant à la suite. Paul dit maintenant pourquoi. Voilà la distinction qu'il fait ici pour illustrer ses propos ici. Il fait la distinction entre Timothée et les autres. Il dit, mais pourquoi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Alors, moi, ce que je constate, effectivement, c'est qu'il y a beaucoup de soi-disant hommes de Dieu qui prennent leur ministère comme une source vraiment de gains, comme l'a dit, comme l'a révélé Paul. Paul ne dit pas les choses au hasard.
Oui, c'est ça.
Et dans les lieux de culte, ils exigent que les gens fassent des quêtes. C'est beaucoup récurrent en France. Ils font des quêtes de la journée, quêtes une fois, deux fois, trois fois. Donc, pour finir, les gens, une fois, deux fois, quand ils viennent dans ce lieu de culte, ils n'y vont plus. Voilà. Donc, à l'exemple de ces choses-là, Paul insiste vraiment pour dire à Timothée de ne pas faire ça. Alors, donc, le véritable enfant de Dieu doit véritablement faire attention. Souvent, quand on est aussi dans la vie active, on est souvent attiré aussi à avoir de l'argent, à avoir beaucoup d'argent. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé un jour, est-ce qu'un croyant il doit jouer les jeux des hasards? Voilà la question qu'il m'a posée. Est-ce qu'un croyant doit... souvent, on est souvent tenté aussi, bon, moi, jouer les... En France, ici, il y a ce qu'on appelle les millionnaires.
Ouais.
C'est des types au hasard, millionnaire.
Ouais.
Donc, souvent, on est souvent attiré à ça pour jouer un peu, pour avoir de l'argent. Pour avoir 50 euros, 500 000 euros, 6 000. Donc, souvent, quand on lit l'évangile en profondeur, on considère que ces choses-là, il faut qu'on fasse beaucoup attention. Parce que l'amour de l'argent peut nous amener dans d'autres chemins où il y a beaucoup de pièges qu'on ne s'imagine pas. Alors, et la deuxième chose, que, comme tu l'avais déjà dit, combat le bon combat. De la foi. Moi, c'est un truc que j'attends souvent dans la religion. Les gens disent oui, tu sais que le diable, il rôde souvent. Donc, il faut combattre. Il faut combattre parce que le diable rôde autour de toi comme un lion qui rougit. Donc, ça sent qu'il cherche à qui dévorer. Alors, aujourd'hui, quand on lit bien les écritures à tête reposée, verset par verset, on comprend effectivement que le combat, en fait, c'est pas nous qui menons le combat. Parce que, comme c'est toujours accompagné du combat de la foi, tu vois. Et de saisir la vie éternelle, comme le pasteur Ken a bien expliqué, que nous, dès lors que nous sommes déjà en Christ, nous sommes dans la vie éternelle, nous sommes dans la Christ et la vie éternelle. Mais quand il dit combattre le bon foi, c'est de ne pas abandonner la foi. Et le combat en lui-même, c'est le Seigneur qui le fait pour nous. Et que nous, étant dans ce combat-là, étant attachés dans la foi, et englobés dans cette foi-là, nous devons garder la foi et ne pas se dérober de cet évangile. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est très, très bien. Et que nous prions les uns les autres, comme l'a dit Koulibaly. Mais maintenant, pour finir, ce que je voulais dire à Koulibaly, le mot grâce, il faut que Koulibaly, justement, j'attends ça pas dans la bouche de Coulon, j'attends ça souvent dans la bouche de certains hommes, surtout en Côte d'Ivoire, partout, en France ici aussi, dans le milieu africain. Alors, il faut véritablement faire une distinction entre la grâce de l'Éternel dans le Seigneur, dans le salut des pécheurs, et le mot grâce qui est beaucoup utilisé comme ça, quand les gens font, par exemple, ils passent un concours, ils passent un truc. Ils disent que ça, c'est par la grâce de Dieu. Et moi, c'est un mot qui me gêne parce que quand quelqu'un fait une œuvre, ça, ce n'est plus une grâce. Donc, quand il a fait quelque chose, c'est qu'il a mérité ce qu'il a fait.
Ouais.
Mais la grâce dont on parle, dont l'évangile parle, c'est une grâce où on ne mérite pas. Parce que quelqu'un ne mérite pas, la grâce, c'est faveur. Alors, pour illustrer mes propos, je parle souvent des gens qui sont des prisonniers, qui sont des bandits et qui sont condamnés à mort. Et quand le président de la République décide, par grâce présidentielle, de libérer un prisonnier, un grand criminel parmi tous les autres. Alors, les autres prisonniers qui sont là-bas, ils ne vont pas dire que le président est injuste pour qu'il a fait la grâce présidentielle. Et celui qui a été libéré, lui, il ne dira pas qu'il mérite. Hein? Il va se sentir qu'il a fait, il a fait pas la grâce, mais il ne méritait pas. Alors, donc souvent, il faut qu'on fasse un peu la différence dans ce sens-là, en présentant cette illustration comme ça, que quand la Bible dit, par exemple, que le Seigneur a fait grâce à Noé. Donc, parmi les contemporains de Noé, de sa génération, le Seigneur dit qu'il a fait grâce à Noé. Ça veut dire qu'il a eu la faveur de l'Éternel. Donc, en tant qu'être humain, selon la nature pécheresse, il est aussi pécheur comme les autres, mais Dieu l'a fait grâce. Et c'est par cette grâce-là que Dieu l'a déclaré, que lui a dit que c'est juste aux yeux de l'Éternel. Donc, c'est pour ça qu'on utilise le mot grâce. Donc, souvent, comme ça m'a un peu rappelé, quand Koulibaly fait allusion à sa fille qui a eu son examen, qui a l'université, et que c'est par la grâce de Dieu, bon, souvent, il faut qu'on fasse un peu attention sur ce mot-là. C'est ce que je voulais dire. Quoi.
Non, je suis d'accord avec cette précision et je crois que ça doit être bien reçu aussi parce que tout le monde vit aux dépens des miséricordes de Dieu. Il y a une différence. Il fait miséricorde à tous. Le fait que même des bandits, comme tu disais, des hommes violents, vivent dans ce monde, de ce côté de l'enfer, c'est une miséricorde même pour eux. Le fait de réussir dans la vie, quelle que soit la personne, c'est une miséricorde. Mais quand il s'agit de la grâce de Dieu, comme tu as bien souligné, ce mot est réservé uniquement pour ces pécheurs-là, pour qui que Dieu le Père a choisi pour qui Christ est mort. Et le mot grâce est toujours dans le sens du salut. Et c'est comme je disais, même au sujet de mes enfants, je ne sais pas si ils sont élus. Je ne sais pas si Christ est mort pour eux. Jusque-là, il n'y a aucune évidence. Cela ne veut pas dire qu'ils sont réprouvés, mais jusque-là, il n'y a aucune preuve qu'ils sont parmi ceux que Dieu a élus et pour qui Christ est mort. Et il se pourrait que moi-même, je meurs avant même que cela soit révélé. Parce que tout ce que je peux dire, c'est que si Dieu les a choisis et si Christ est mort pour eux, c'est certain avec le temps que l'Esprit de Dieu les attirera. Et là, je pourrais dire, alors Dieu leur a fait grâce. Et je pense que c'est le même sens que toi-même tu étais en train de souligner. Donc c'est important, c'est une bonne distinction aussi.
Oui, allô?
Oui.
Oui, allô?
Allô? Ah oui, et merci beaucoup, je vous ai suivi attentivement malgré les coupures. Et je voudrais préciser avec le frère, avec surtout, qu'il faut effectivement faire cette distinction entre la bienveillance de Dieu, la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui est source de salut se réfère à Dieu lui-même.
Oui.
Dieu, le mot même veut dire don, qui est en même temps grâce. Parce que Dieu ne nous a rien donné, rien fait, si ce n'est lui-même et à travers Jésus-Christ. Et c'est ça, la source du salut qui est imméritée. Et c'est exactement ça que nous venons de voir aujourd'hui. Vous avez remarqué que celui qui est bénéficiaire de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, non seulement ne peut jamais mériter cela, mais toute sa vie, impérativement, ne peut que s'identifier à Dieu lui-même. Car c'est en Dieu lui-même qu'il se trouve et à travers Jésus-Christ. Et jamais s'identifier aux choses ou aux choses que Dieu lui a données dans cette vie. Dieu peut nous donner des choses par sa bienveillance. Dieu peut, malgré que nous sommes méchants, nous donner sa pluie, la moisson, tout par miséricorde. Mais ce n'est pas encore la grâce de Dieu parce que ces choses ne peuvent pas être comparées à ce que nous sommes en Dieu et que Dieu est en nous à travers Jésus-Christ. Et c'est pour cela que l'apôtre, en réalité, dans ce que nous avons étudié tout à l'heure, précise, pour toi, le soi en nous, notre moi réel qui est un avec Dieu, est ce que Dieu a partagé avec Christ et que Christ a partagé avec nous. Et c'est avec ça que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à la vie éternelle. Nous sommes appelés par Dieu et pour Dieu. Dieu qui a promis le salut l'a accompli à travers Jésus-Christ et c'était le bon combat que la foi a accompli comme ça. Nous identifions impérativement, j'aime beaucoup ce mot, en tant que mandatés, comme Ken vient de dire. Nous sommes mandatés par Dieu et pour Dieu et avec Dieu, nous avons la vie éternelle et ne devons permettre à rien de nous arracher cela et nous combattre pour rien. Donc, nous ne créons pas un nouveau combat, nous ne défendons pas autre chose, mais nous gardons réellement notre mandat, notre vocation par la foi en Jésus-Christ seul. Et ne doit pas mélanger effectivement cette vocation, ce combat et ce don que Dieu nous a donné spécialement pour le représenter aux faveurs, à des choses que nous gagnons. Ou à des choses que les hommes gagnent ou peuvent avoir ou mériter dans ce monde. Donc, comme Paul l'a dit, et c'est là où je veux préciser que la possession, vous voyez, de l'amour de Dieu, nous sommes possédés par l'amour de Dieu, par Dieu lui-même, et c'est notre seule motivation. Nous aimons l'argent, mais nous ne sommes pas possédés par l'amour de l'argent. Au point même de ne pas mener le bon combat de la foi que l'amour de Dieu qui nous presse, nous pousse à mener. Vous voyez? C'est un peu en cela que les gens nous accusent ici, parce qu'en réalité, nous n'aimons pas l'argent dans le sens que nous sommes motivés par ce que l'argent peut acheter. Nous pouvons même en souffrant tout combattre le bon combat en utilisant l'argent pour la foi des élus. Alors que pour nous-mêmes, nous ne sommes pas en train d'aimer l'argent au point d'ignorer l'amour même de Dieu qui nous presse pour nous satisfaire selon la chair à travers les choses. que l'argent peut acheter. Donc, chaque individu doit s'identifier impérativement et continuellement à Dieu par la foi et pour la foi. Et c'est là où on est réellement dans le bon combat de la foi. La grâce de Dieu, donc, qui nous motive, qui nous mobilise et qui fait que nous renonçons à tout pour Christ, c'est réellement Dieu lui-même. C'est ça que Paul dit dans Philippiens. Il a dit qu'il regarde toutes choses, tout ce que l'argent peut acheter, tout ce en quoi on peut trouver une gloire personnelle, il les regarde comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Et il les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et il le veut, non avec la justice qui vient de la loi, mais la justice qui vient de Dieu par la foi. Donc la grâce de Dieu, c'est en réalité Dieu qui est entièrement pour nous, et nous qui sommes entièrement Dieu en Christ, et nous ne voulons même pas nous trouver être possédés ou motivés par autre chose si ce n'est Dieu lui-même. Et la foi saisit effectivement cette vie et ne permet à rien de nous l'arracher. Donc c'est bien pour nous effectivement de faire cette précision et de le rappeler aussi à Marie effectivement, parce que nous mélangeons la grâce de Dieu et le combat de la foi que nous avons à mener en union avec Dieu par la foi aux choses que nous avons à demander aux saints de faire pour mériter le salut, ou s'ils ne le font pas, ils n'ont pas le salut, ou aux choses que nous pouvons utiliser l'argent pour acheter et avoir et nous faire valoir devant les hommes. Et tout cela, c'est réellement, c'est de l'illusion, c'est de l'erreur. C'est des pièges parfois qui nous éloignent de Dieu. Des gens n'aiment pas Dieu, ne s'identifient pas à Dieu, mais pourtant ils pensent qu'ils sont dans la grâce de Dieu. Et ce qui fait leur gloire et dit, c'est la grâce, c'est la grâce. Vous voyez? Et c'est très important pour nous cette étude que nous faisons et nous prions le Seigneur vraiment de faire en sorte que nous nous voyons entièrement à travers lui, par lui et pour lui, et que nous saisissons réellement, c'est-à-dire ce que nous, Dieu nous a donné déjà par sa grâce, nous ne permettons à rien, n'est-ce pas, de nous l'arracher. Et ce n'est même pas possible tant que nous nous identifions à Dieu. C'est aussi là, mon frère, quand vous avez dit tout à l'heure que le mot même, invoquer le nom du Seigneur, voilà. Celui qui réellement invoque le nom du Seigneur, c'est quelqu'un qui se voit entièrement dans ce nom, c'est-à-dire dans cette personne et cette œuvre, voilà. Dans son combat.
Ouais.
Vous voyez, et il est assuré qu'en dehors de cette personne, rien n'a de valeur. Mm. Et effectivement, il sera sauvé, parce qu'en réalité, rien ne peut le distraire et l'amener à avoir peur, à courir dans tous les sens pour devenir vanité. Mais en réalité, ce seul nom, cette seule personne dans laquelle impérativement, continuellement, nous nous identifions, nous préserve contre tout et contre tous au nom de Jésus-Christ. Et c'est très important, c'est très intéressant. Je rends grâce vraiment à Dieu pour vous d'avoir souligné clairement toutes ces choses. Et que Dieu nous garde et nous préserve. Merci beaucoup.
Amen.
Merci.
Bien dit.
Amen.
Bien dit.
Allô?
Oui, oui.
Oui, allô?
Voilà. C'est-à-dire, ce que je voudrais ajouter, parce que nous sommes les disciples de la grâce de Dieu ici. Alors, si nous parlons souvent ici de la grâce de Dieu, je crois que nous savions ce que nous voulons dire par la grâce de Dieu. Bon, si encore, j'aimerais que nous étudions un peu pour la prochaine fois ce passage qui a été dit dans Jacques. Toute grâce excellente vient d'en haut, chez le Père de la lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Bon, c'est vrai, ce que vous dites, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Il y a souvent des mots qu'on emploie pour satisfaire la littérature, ça c'est littéraire. Mais si nous sommes en groupe, vous savez que nous parlons de la grâce, nous savions ce que nous voulons, ce que c'est que la grâce. Nous avons déjà une connaissance assise dans cela. Et voilà pourquoi nous nous permettions de dire cela. Mais je crois que c'est très bien d'avoir élaboré ces problèmes-là. Ça aide aussi ceux qui nous écoutent. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je suis satisfait. Merci.
Très bien.
Merci, Yacoub.
Bien, prions toujours les uns pour les autres et que le Seigneur nous garde durant cette semaine pour ceux qui seront chargés de prêcher l'évangile demain, que ce soit dans une assemblée ou bien que ce soit dans la famille. Et il ne faut pas penser qu'il faut être dans un bâtiment, un lieu de culte, de pouvoir annoncer l'évangile. C'est... Vous êtes dans une situation où il n'y a pas d'assemblée, où vous pouvez adorer Dieu en esprit, en vérité. Donc, c'est votre famille qui est votre assemblée. Il faut réunir la femme, il faut réunir les enfants et s'asseoir et ouvrir la parole et leur annoncer cet évangile. Alors que le Seigneur nous donne toujours sa sagesse et son esprit de nous diriger et que en toute chose, Christ... soit glorifié. Alors, je remercie le Seigneur pour ces occasions et Dieu voulant, on se reverra encore la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.
Mmh.